VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 12 décembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la campagne électorale a été émaillée d'incidents hier à Lubumbashi.
Un dirigeant d'ACMI dément la mort du chef djihadiste malien Amadou Koufa.
En France, 3 personnes ont été tuées et 12 autres blessées mardi dans une fusillade par un suspect en fuite.
Ici à Washington, affrontement direct télévisé à la Maison-Blanche sur l'immigration entre le président Donald Trump et les leaders des démocrates au Congrès.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Poursuite de la campagne électorale en République démocratique du Congo. À 11 jours des élections du 23 décembre, des incidents ont été signalés mardi à Lubumbashi. Le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, a vu son cortège dispersé par les forces de l'ordre usant de balles et de gaz lacrymogènes. Il n'a pas pu tenir son meeting sur place. Ses principaux concurrents, Félix Tshisekedi et Emmanuel Ramazani Shadary, ont quant à eux battu campagne dans l'est et le nord-est du pays. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si vous votez pour le candidat numéro 13, c'est la continuité que vous allez vivre, c'est-à-dire la souffrance, le chômage et l'insécurité, a lancé Félix Tshisekedi devant des milliers de personnes réunies mardi à la place de la Poste à Kisangani pour suivre son meeting. Le ticket cap pour le changement a par ailleurs promis aux Boyomés, s'ils élisent Félix Tshisekedi, la gratuité des soins de santé ainsi que la création d'emplois pour les jeunes. Beni et Boutembo sont leurs prochaines étapes. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, était pendant ce temps à Issi dans la province du Haut-Touélé, au nord-est du pays. Mon programme, c'est pour développer ce pays et en particulier cette province. Nous allons relier Isiro à toutes les grandes villes de l'ex-province orientale. La paix, la sécurité, la construction des barrages hydrauliques seront également nos priorités, a-t-il dit aux habitants de Isiro pour solliciter leur voix le 23 décembre prochain. La coalition Lamuka, quant à elle, a, après la dispersion par les forces de l'ordre du cortège de son candidat et l'annulation de son meeting à Lubumbashi, publié un communiqué dans la soirée dans lequel il félicite la population pour sa mobilisation en faveur de son candidat partout où il a pu tenir son meeting, charger le pouvoir de Joseph Kabila et appeler les Congolais à se mobiliser, je cite, « dans le calme, la sérénité et la non-violence » pour l'élection désormais certaine de son candidat, Martin Fayoulou Madidi, fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En seconde partie de cette édition, nous reviendrons plus en détail sur la campagne électorale en RDC.
Un dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, Abdel Malek Droukdel, a démenti hier la mort du chef djihadiste malien Amadou Koufa lors d'une opération le 23 novembre de la force française Barkhane. C'est ce qui ressort d'un communiqué diffusé par l'agence de presse privée mauritanienne Al-Akhbar. Plusieurs médias internationaux ont rapporté que le cher Mohamed Koufa avait été tué aux côtés de 34 autres dans une opération aéroportée. Toutefois, le cher n'était pas sur le site de l'opération et il n'a été ni tué ni blessé, indique la retranscription, traduite en anglais et diffusée par Al-Akhbar, d'un enregistrement audio d'Abdelmalek Droukdel.
Le gouvernement gambien a salué mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 années au pouvoir sans partage. La décision américaine est en phase avec l'engagement du gouvernement gambien de combattre la corruption et de garantir l'établissement des responsabilités pour des violations graves des droits de l'homme, indique le ministère gambien de la Justice, en remerciant Washington pour sa solidarité et la transition vers la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari et plusieurs leaders de l'opposition ont signé hier un pacte pour que les élections de 2019 se tiennent dans un climat pacifique. Son principal rival à la présidentielle, Atiku Abubakar, n'était pas présent. Le point avec Morgane Guiriec.
Muhammadu Buhari s'est engagé avec les représentants de dizaines de partis à faire en sorte que les élections générales, prévues en février, soient pacifiques et crédibles. Nous nous engageons à respecter les normes de conduite les plus strictes et encourageons nos sympathisants à en faire autant, a-t-il affirmé lors d'une cérémonie à Abuja. Le texte est quasiment identique à celui signé avant les élections de 2015, mais Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, ne s'est pas joint à l'accord. Aussi, deux autres figures respectées, comme Donald Duke, ancien gouverneur de l'État de Cross River, et Obi Ezekwesili, ancienne ministre de l'Éducation, n'ont pas apposé leur signature. Le président du Comité national pour la paix, Abdul Salami Abubakar, a affirmé que personne n'a été écarté car selon lui, l'accord devait être signé par tous les partis. Au Nigeria, les tensions ethniques et religieuses ont souvent alimenté des violences électorales. En 2011, environ 1000 personnes ont été tuées après la défaite de Buhari face à Goodluck Jonathan.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Scène incroyable dans le bureau ovale ici à Washington. Le mur à la frontière avec le Mexique promis par le président Donald Trump a donné lieu hier à des échanges très tendus entre M. Trump et les leaders des démocrates au Congrès. Compte rendu d'Irénée Herman Oumbo.
Menaçant d'aller jusqu'au shutdown, paralysie de certaines administrations si les démocrates refusent de voter le financement du mur, le président Donald Trump a indiqué que la sécurité aux frontières devait être une priorité absolue. C'est un sujet difficile, nous n'aurons probablement pas d'accord, a martelé Monsieur Trump dans une ambiance très tendue. Je ne pense pas que nous devrions avoir un débat devant les journalistes, a rétorqué Nancy Pelosi, qui devrait prendre la présidence de la Chambre des représentants en janvier. Les Américains pensent que le gouvernement doit rester ouvert, a-t-elle insisté. Les élections ont des conséquences. Monsieur le Président a lancé de son côté Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat. La rencontre marque le début d'âpres tractations sur la loi budgétaire qui doit être adoptée d'ici le 21 décembre. Un échec des négociations peut entraîner une paralysie partielle de certaines administrations. Les démocrates proposent de débloquer une enveloppe de 1,6 milliard de dollars pour la sécurité aux frontières, mais ont été clairs, pas question d'utiliser ces fonds pour financer le mur, une promesse de campagne de Donald Trump.
En France, de très importantes forces de l'ordre étaient engagées ce matin dans une chasse à l'homme pour retrouver l'auteur en fuite de la fusillade qui a fait au moins 3 morts et 12 blessés hier soir sur le marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est. Le gouvernement français a placé le pays en urgence attentat. Quelques 350 personnes, dont 100 membres de la police judiciaire, des militaires et 2 hélicoptères, sont aux trousses de l'assaillant, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
France toujours, le mouvement des Gilets jaunes ne semble pas s'éteindre alors que le gouvernement précise les mesures annoncées lundi par le président Emmanuel Macron. Le point avec Raissa Girondin.
Le Premier ministre Édouard Philippe a défendu hier devant les députés les mesures déclinées la veille par Emmanuel Macron. Hausse de 100 euros par mois du salaire minimum, annulation d'une taxe sur les petites retraites et défiscalisation des heures supplémentaires. Chiffrées à environ 10 milliards d'euros, ces mesures promettent de creuser le déficit public. Ces nouvelles concessions ne semblent pas avoir fait retomber la colère, mais les Français restent partagés. Certains veulent la poursuite du mouvement, pendant que d'autres appellent à une trêve. Depuis le début des manifs des Gilets jaunes le 17 novembre, 5 personnes ont été tuées et plus de 1400 blessés. Le gouvernement veut à tout prix éviter une 5e journée de manifestation samedi. Par ailleurs, des députés de gauche ont lancé au Palais Bourbon une procédure pour faire tomber le gouvernement. Cette motion de censure, qui sera soumise au vote jeudi, n'a aucune chance de passer car elle n'est soutenue que par une minorité de députés français.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu en Suède pour encourager le gouvernement et les rebelles yéménites à poursuivre leurs consultations de paix en vue de mettre fin au conflit qui a précipité des millions de personnes au bord de la famine. M. Guterres, attendu jeudi, aura des entretiens avec les 2 délégations du gouvernement et des rebelles houthis et s'exprimera à la séance de clôture de ce round de consultation, a indiqué l'ONU hier dans un communiqué publié à New York.
Le président Donald Trump a déclaré dans une interview mardi qu'il pourrait intervenir dans le cas de la directrice financière du géant chinois Huawei, arrêtée au Canada à la demande de la justice américaine, et ce, afin de préserver les négociations commerciales avec la Chine. L'arrestation de Meng Wanzhou a provoqué la colère de Pékin, alors qu'une trêve dans la guerre commerciale sino-américaine venait d'être conclue. Un juge de Vancouver a ordonné mardi la libération sous caution de Meng Wanzhou, accusée de violation des sanctions américaines contre l'Iran. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanik Talani.
Le Mali recevra 43,8 millions de dollars du Fonds monétaire international pour financer ses réformes économiques, révèle l'agence Ecofin. À travers ce nouveau décaissement, le FMI espère soutenir la poursuite des politiques de stabilisation macroéconomique et de réduction de la pauvreté par le gouvernement malien. Ce nouveau décaissement porte à 186 millions de dollars le montant total des décaissements effectués dans le cadre de l'accord conclu avec le Mali. Le Fonds vert pour le climat débloque 24,3 millions d'euros pour un projet solaire concernant 100 villages au Burkina Faso. Selon Ecofin, cette somme représente la moitié de l'investissement nécessaire à la réalisation du projet, dont le but est de réduire la dépendance du pays à l'égard des combustibles fossiles et faciliter l'accès à l'électricité. Terminons avec la Banque africaine de développement et la Fondation panafricaine Entrepreneurium qui ont noué un partenariat pour soutenir 1000 femmes entrepreneurs dans 5 pays africains, Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Afrique du Sud et Tunisie. Les projets d'entreprise les plus prometteurs des participantes seront analysés afin de leur octroyer le financement nécessaire, soit par les banques commerciales, soit par les institutions de microfinance selon leur niveau de maturité.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Élection aujourd'hui à la présidence de la Fédération camerounaise de football.
Le ton est monté ces temps-ci, soutien du candidat Seydou Mbombo Ndoya. Samuel Eto'o est accusé d'avoir tenté de s'immixer dans la campagne en essayant de déstabiliser les concurrents de son favori, dont l'ancien gardien de but Joseph-Antoine Bell, accusé d'avoir fait miroiter un poste de directeur technique national à Bell pour qu'il renonce à sa candidature. Eto'o s'est défendu en publiant ses conversations privées tenues avec l'ancien lion indomptable sur les réseaux sociaux. L'attaquant du Qatar SC entendait ainsi démontrer que c'est Bell qui est venu vers lui pour négocier ce poste. Soutien de Bell, Roger Mila est alors sorti du bois pour recadrer Eto'o fils qui a vidé son sac à travers un long post publié sur son compte Facebook. L'ancien Barcelonais estime avoir été lâché par Bell et Mila lorsqu'il a essayé de redonner le pouvoir au footballeur en 2014.
Le capitaine de la Côte d'Ivoire s'en prend à la CAF après le retrait de la CAN 2021 à son pays.
Je suis choqué, je ne comprends pas cette décision. Pour moi, c'est une magouille, une affaire de politicien. C'est dommage, a déclaré Serge Aurier, défenseur international ivoirien évoluant actuellement dans le championnat anglais avec l'équipe de Tottenham. La CAF attend une réponse de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Fin novembre, l'instance africaine a finalement retiré l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun, à qui elle a réattribué celle de 2021 aux grandes dames des Ivoiriens initialement attributaires de cette dernière édition.
On connaît les demi-finalistes de la CAN Beach Soccer 2018.
Deuxième du groupe A, les Lions de l'Atlas feront face aux Lions de la Teranga, champion d'Afrique en titre. Avec 3 victoires en autant de matchs de groupe, l'Égypte qui abrite le tournoi défiera le Nigeria. Les rencontres des demi-finales se disputent demain à Sharm el-Sheikh. La finale est prévue le 14 décembre. Les finalistes se qualifieront pour la Coupe du Monde de cette compétition, Paraguay 2019.
La belle histoire se termine déjà pour Yaya Touré.
Alors qu'il avait privilégié le sportif à l'argent, en revenant au sein de l'Olympiakos, l'international ivoirien vient d'arrêter son aventure avec le club grec. L'Olympiakos a annoncé la résiliation du contrat de Yaya Touré d'un commun accord. Âgé de 35 ans, le vétéran ivoirien n'aura disputé que 5 rencontres sous les couleurs du club qu'il avait déjà connu lors de la saison 2005-2006. NBA, pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Deux résultats, Houston et Portland de 111 à 103, San Antonio et Phoenix 111 à 86.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la pneumonie.
Les personnes atteintes de cette maladie respiratoire ont les poumons remplis de pus et de liquide. Elle est responsable de 15% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Obin Kasongo, pédiatre en RDC. Il nous donnera des astuces pour éviter la maladie.
Nous écouterons aussi le docteur Jean-Fidèle Ilunga du ministère congolais de la Santé. Il nous parlera des politiques publiques qui peuvent être efficaces contre la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La tension monte en République démocratique du Congo à 9 jours de la clôture de la campagne électorale. Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, qui signifie « Réveille-toi », a dénoncé hier la perturbation avec des balles et des gaz lacrymogènes de son meeting à Lubumbashi après l'étape de Kindu où son avion avait été empêché d'atterrir. Notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, sur les incidents d'hier.
Martin Fayulu arrive en début d'après-midi à Lubumbashi à partir de l'aéroport international de Lalouanou. C'est une foule immense qui l'attendait pour l'accueillir. Christian Kaloumé est membre de la plateforme Lamuka, revient sur l'arrivée de Martin Fayulu.
Malheureusement, nous déplorons le comportement de nos services, dont la police notamment. À quoi bon utiliser les gaz lacrymogènes, leurs pompes à eau chaude pour disperser les gens? Aujourd'hui, on vient d'éprouver que Lubumbashi appartient à certaines personnes. Leur chadari n'a pas de place à Lubumbashi. On vient de le prouver aujourd'hui. Fayulu a fait un plein inimaginable, un grand plein que personne ne pourra contester. Lubumbashi est tombé finalement, c'est la libération.
Déjà tôt le matin, les incidents sont signalés ça et là, alors que le cortège de Martin Fayulu s'est dirigé vers le centre-ville de Lubumbashi. Derrière le cortège, la police tente de disperser les sympathisants à coups de grenades lacrymogènes et canons à eau chaude. Plusieurs véhicules sont incendiés dans certains coins du centre-ville de Lubumbashi, mais les auteurs sont inconnus. Les cortèges de Martin Fayulu est empêché de se rendre sur le lieu du meeting prévu à la cité de jeunes. Crépitement des balles, bataille rangée entre policiers et sympathisants. Des blessés et des morts sont dénombrés. Plusieurs dégâts matériels sont signalés. Écoles, postes de police, tribunal, incendiés. Contacté par VO Afrique, le maire de la ville, Ghislain Loubaba, et le porte-parole de la police, le capitaine Charles Bin Luamba, se sont réservés à tout commentaire avant de maîtriser la situation qui, jusque dans la soirée, était incontrôlable. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, revient lui sur les autres événements marquants de la campagne en commençant par la réaction de Martin Fayulu aux incidents de Lubumbashi.
Le candidat de la coalition Lamuka dénonce cette situation et en appelle à l'arbitrage de la communauté internationale.
Lancer des gaz lacrymogènes, de l'eau chaude aux paisibles citoyens pendant la période de la campagne. Et c'est pour cela que nous disons, et d'abord au Conseil de sécurité, j'interpelle tous ceux qui nous disent qu'il faut mettre un bémol sur la machine à voter. Vous avez compris? Vous avez la situation grandeur nature. On nous a empêché d'aller à Kindu. Maintenant nous sommes ici. Baba Kiyungu Okatanga a organisé un accueil ultra, je ne sais pas comment les qualifier. Ils ont été dépassés. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter pour que nous ne puissions pas continuer.
De son côté, le candidat du Front commun pour le Congo, Ramazani Shadari, qui a tenu un meeting ce mardi à Isiro dans la province du Bas-Uele, promet de faire le tour du Congo pour vendre son programme de campagne. Le candidat de la coalition au pouvoir appelle par ailleurs ses partisans au calme et à la tolérance après ce qui s'est passé à Kindu et à Lubumbashi.
Je ferai tout le Congo, du moins les chefs-lieux des provinces. Il faut que les gens soient tolérants. Il faut éviter les actes de vandalisme.
De son côté, Félix Tshisekedi a tenu un meeting mardi à Kisangani avant de retrouver Beni et Butembo au Nord Kivu, puis de mettre le cap sur l'ouest et le centre du pays. À la société civile, l'ONG ACAJ, Association Congolaise pour l'accès à la justice, condamne la perturbation des activités de l'opposition et accuse le gouvernement d'empêcher à Fayulu de mener normalement sa campagne.
La situation qui s'est passée à Kindu a été mûrement décidée et payée, soutenue avec les moyens de l'État par les autorités provinciales. Et c'est la même situation qui vient de se passer aujourd'hui à Lubumbashi.
Les Kinois interrogés, eux, regrettent que l'opposition aille à ces élections en ordre dispersé.
C'est malheureux parce qu'on aurait voulu pour la démocratie qui est un candidat, un bloc opposition, un autre, les pouvoirs.
Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pendant ce temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans la région du Beni. L'attaque est attribuée aux rebelles ougandais des ADF, qui sont déjà tenus responsables de la mort de 15 casques bleus tanzaniens en décembre 2017 et de 7 autres casques bleus malawites et tanzaniens le mois passé. Idriss Fall a fait le point hier avec Nikez Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
Oui, il y a eu effectivement attaque dans 3 villages au nord de la cité de Oicha. Tenambo, Mabasele, Mbimbi. L'attaque a fait 10 personnes tuées de façon cruelle parce qu'on les a ligotées avant de les achever à la machette et à l'arme à feu.
Mais que fait l'armée et que font les casques bleus dans la région?
Nous assistons dans la région à 3 facteurs qui tournent autour de l'insécurité. Il y a d'abord les facteurs des fameux ADF. Et nous avons les facteurs dus à la maladie à virus Ebola qui crée aussi des décès. Et puis nous avons la campagne électorale qui est aussi une source de tension. Et de ces 3 facteurs, l'enjeu principal reste la population qui subit. Et les militaires sont là, confrontés à 3 réalités différentes, mais qui conduisent toujours au front. Donc les militaires, que ce soit les FARDC ou la MONUSCO, sont presque débordés par les 3 facteurs d'insécurité.
Dans ce contexte, comment se déroule donc la campagne?
Il y a un peu d'intolérance aussi, moins de violence. La campagne se déroule jusque-là très bien. Les candidats à la présidentielle étant déjà passés, maintenant ce sont des candidats à la députation qui font campagne. De façon générale, la campagne se déroule bien, en attendant la date fatidique.
Avec l'Ebola, avec les attaques des rebelles ADF, les gens pourront quand même aller voter?
Comme on n'est pas le prophète de malheur, les gens iront voter. Peut-être qu'il n'y aura pas assez d'engouement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il y aura des attaques le jour du vote, mais les gens iront voter d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que dans certaines zones, il est difficile de battre campagne. Il y aura engouement autour des cités comme dans la ville de Beni, Oicha aussi, mais à la périphérie. Mais attendons voir comment le problème va se poser, comment ça sera résolu.
Nikez Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses, joint hier à Beni.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République centrafricaine, la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. Après les récentes violences dans le pays, les ONG internationales dénoncent les difficultés que rencontrent les humanitaires pour apporter de l'aide aux populations affectées. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Les violences orchestrées par les groupes armés en novembre et début décembre 2018 dans certaines régions de la République centrafricaine ont contribué à la détérioration de la situation humanitaire. Dans les localités de Batangafo, Alindao et Ipi, on dénombre des dizaines de milliers de déplacés internes, des milliers de maisons incendiées et des milliers de personnes dans le besoin d'aide humanitaire d'urgence. Actuellement à Alindao et Ipi, les personnes affectées n'ont reçu aucune assistance faute de couloir humanitaire du fait des activités des hommes armés. Baptiste Ankar, coordonnateur du CCO, Comité de coordination des organisations non gouvernementales internationales.
Nous, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est laisser les humanitaires travailler entièrement. Faites savoir quand effectivement vous n'êtes pas satisfait, mais respectez strictement les principes humanitaires, garantissez l'accès aux populations vulnérables et dans le besoin, quelle qu'elle soit.
Face à cette situation, l'association des victimes et déplacés de la base Koto, l'une des préfectures durement affectées, dénonce les graves violations des droits humains. Son coordonnateur Enoch Fortuné Binguidé interpelle le gouvernement et la MINUSCA.
Vous allez comprendre que depuis 2015, les enfants qui sont nés n'ont pas d'acte de naissance. Il n'y a pas de libre circulation. Vous voyez que depuis mai 2017, plus de 500 femmes et hommes ont été violés récemment à Lindao. Beaucoup de maisons et des écoles ont été détruites.
À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre, les organisations de défense des droits humains ont alerté les autorités sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Centrafrique. Maître Mathias Barthélémy Moruba est président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme.
La MINUSCA a un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce mandat robuste lui donne la possibilité de mettre hors d'état de tous ceux qui vont se mettre en marge de la loi. Or, ici, on a constaté qu'en présence de la MINUSCA, les populations civiles sont massacrées. La population est abandonnée. Alors, on ne comprend pas quel est finalement le rôle que joue la MINUSCA aujourd'hui en République centrafricaine. Nous sommes vraiment inquiets. Là, on meurt. Ils ne sont pas là, on meurt.
Selon les Nations Unies, malgré la générosité des donateurs, le plan de réponse humanitaire 2018 pour la République centrafricaine d'un montant de 516,6 millions de dollars n'a été financé qu'à hauteur de 240,6 millions, a indiqué l'ONU. Freeman Sipila Bangui pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Les dirigeants d'États insulaires, particulièrement vulnérables au changement climatique, ont lancé hier un appel à l'action urgente à quelques jours de la fin de la COP24 à Katowice en Pologne, où les négociations pour donner vie à l'accord de Paris font face à de nombreux obstacles. Les négociations butent notamment sur des questions liées à la transparence quant à la manière dont les États rendent compte de leurs actions, de leur financement et de leurs résultats, et aussi sur le degré de flexibilité accordé aux pays les plus pauvres. De nombreux acteurs du secteur pétrolier et gazier sont également présents à la COP24. John Lindon s'est entretenu avec Terzian Nareg, porte-parole de l'Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole.
Alors nous, on est observateurs, donc on n'agit pas dans les discussions, donc c'est assez important à souligner. Et on est là parce que aujourd'hui, le pétrole et le gaz, à eux deux, représentent un petit peu moins de 2/3 ou un peu plus de la moitié de la consommation énergétique mondiale. Donc on est un acteur important aujourd'hui du paysage énergétique et nous allons le rester dans le futur. Combien, personne ne peut le savoir aujourd'hui, mais en tant qu'industrie et en tant que fournisseur d'énergie, c'est important que nous soyons là pour répondre à certaines des questions que les gens pourraient avoir, si vous voulez, sur comment notre industrie voit les choses aujourd'hui et comment elle pourrait voir les choses dans le futur.
Alors on parle aujourd'hui de plus en plus d'ailleurs d'énergie propre. Est-ce que votre secteur participe à cela?
Absolument. Alors, c'est intéressant comme question parce que, donc, on parle d'énergie propre et j'aimerais élargir un peu en parlant de technologie bas carbone ou technologie pour décarboner. Les industries pétro-gazières sont également de très importants investisseurs dans ces technologies-là. Alors, si vous voulez prendre juste le secteur des renouvelables, qu'on entend communément par le solaire et l'éolien, pour ce secteur-là seul, on a à peu près 10 gigawatts de capacité en construction par des sociétés pétrolières et gazières. Donc notre industrie participe également au développement de ces énergies renouvelables, diversifie également son secteur d'activité en faisant cela.
On constate que les conférences se multiplient. Est-ce que ces conférences sont suivies des faits lorsqu'on sait qu'il y a des grands acteurs tels que les États-Unis qui ne font pas partie du jeu?
Les conférences, je pense, sont extrêmement importantes car elles permettent de maintenir ce débat dans la sphère publique. Déjà, les conférences en soi permettent cela. Il faut reconnaître cette valeur-là aux conférences. Ensuite, ce sont des conférences qui permettent aux différents acteurs de parler. Quand je dis différents acteurs, je parle des gouvernements, évidemment. Mais bon, moi, je suis plutôt du secteur privé. Donc nous devons, en tant que secteur privé, secteur industriel, parler de la façon dont nous voyons les choses. Parce que très souvent, les gens ne savent pas ce que les industries pétrolières et gazières font, justement, pour réduire elles-mêmes leurs émissions. Et donc, il est important que nous soyons là aussi pour montrer que nous participons à cet effort-là. Quelles sont les solutions que nous mettons en avant? Donc, si vous voulez, le partenariat qui est établi entre le secteur privé et le secteur public, donc les gouvernements, est extrêmement important.
C'était Terzian Nareg, porte-parole de l'Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dénoncer le viol comme arme de guerre, tel est le combat qu'il a décidé de mener. En République démocratique du Congo, ce gynécologue a consacré sa carrière aux femmes et filles victimes de violences sexuelles. Comment est-il devenu une référence de la lutte contre la barbarie? Comment punir les auteurs de ces actes? À la star du docteur Mukwege, comment accompagner les victimes de sa communauté sur le chemin de la guérison physique et psychologique? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.